Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la face cachée du bug bounty avec Adrien Janot. Bonjour Adrien.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe.
Pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Et Nicolas Ruff.
Bonjour.
Alors Adrien, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Oui, donc Adrien Janot, connu aussi sous le pseudo de XO. Je suis en charge du triage sur la plateforme de Bug Bounty YesWeHack depuis 4 ans.
Alors Adrien, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le Bug Bounty, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de Bug Bounty ?
Alors le Bug Bounty, c'est on va dire une manière éthique et responsable de mettre en relation des chercheurs en sécurité avec des clients. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'avoir finalement une page de sécurité qui indique des périmètres sur lesquels on invite des chercheurs en sécurité à chercher des failles, et dès lors qu'un chercheur trouve une faille, il la remonte au travers de cette page, et en fonction de la criticité de la vulnérabilité qui a été découverte, et si cette vulnérabilité a été validée, eh bien le chercheur reçoit une récompense monétaire.
Alors ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est la partie validation, et je vais te dire pourquoi ça m'intéresse, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui faisait la validation des failles remontées dans Pokémon Go, et pour pouvoir reproduire le bug, en fait, il avait besoin d'échanger un cadeau avec quelqu'un, et pour échanger des cadeaux, il faut être au moins niveau 5, et donc il a dû jouer 2 semaines à Pokémon Go pour pouvoir reproduire le bug. C'est ce qui nous a un peu donné l'idée de cet épisode ce soir. Donc comment ça se passe ? C'est quoi le cycle de vie aujourd'hui quand quelqu'un trouve une faille et qu'il vous écrit
Donc aujourd'hui, quand une personne trouve une vulnérabilité, elle va la remonter sur le programme dédié de Bug Bounty, et ça va arriver dans les petites mains de l'équipe triage, qui sont internalisées et qui vont analyser le rapport. Alors, qu'est-ce que le triage en lui-même ? Ça va se composer en plusieurs éléments. Le premier, déjà, c'est qu'on va vérifier est-ce que la vulnérabilité qui a été remontée fait bien partie du périmètre qui est autorisé dans le programme, puisque on ne peut pas chercher des vulnérabilités sur des périmètres qui ne sont pas autorisés. Ensuite, on va vérifier est-ce que la vulnérabilité est valide, dans le sens, est-ce que c'est quelque chose qui va intéresser le programme de Bug Bounty. Typiquement, par exemple, tout ce qui va être énumération d'utilisateurs, c'est pas quelque chose qui va intéresser un programme de Bug Bounty. Si, par exemple, le chercheur a été en mesure, par contre, de démontrer une vulnérabilité permettant, je ne sais pas, un contrôle d'accès défaillant dans l'application qui permet d'accéder à des données d'un utilisateur, là, on considère que ça rentre évidemment dans le périmètre et on va poursuivre l'analyse. Ensuite, on va vérifier, donc on va faire une reproduction systématique des vulnérabilités. C'est obligatoire, ça permet vraiment de comprendre exactement ce qu'a voulu dire le chercheur, de vérifier ce qu'il nous remonte, est-ce que c'est bien valide. On peut s'apercevoir éventuellement qu'il manque des éléments, des informations pour vraiment reproduire la vulnérabilité en totalité. Dans ce cas, on va aller demander des informations complémentaires au chercheur. Et puis, le fait de reproduire systématiquement les vulnérabilités, ça nous permet de comprendre l'impact et de s'assurer que ce que le chercheur nous remonte est bien en adéquation avec l'impact que lui estime et juge vis-à-vis de la criticité des vulnérabilités. On a aussi le rôle d'aller vérifier que ce n'est pas une vulnérabilité qui a été déjà remontée précédemment, puisque dans le modèle du Bug Bounty, une vulnérabilité n'est payée qu'une seule fois, dans le sens où si un utilisateur trouve une vulnérabilité et qu'un autre chercheur trouve la même vulnérabilité, uniquement seul le premier chercheur sera récompensé.
Ah ouais, mais s'il y en a un qui fait... si le deuxième, il fait un bien meilleur rapport que le premier.
Alors ça peut arriver, effectivement. Ça peut arriver que le deuxième rapport soit mieux rempli et mieux renseigné. Malheureusement, le modèle fait que c'est vraiment le premier rapport qui va déterminer que c'est le premier chercheur qui est éligible à une récompense et non pas le second chercheur.
Alors, un phénomène que moi je constate, c'est que souvent les failles sont trouvées dans des composants tiers. Enfin, je sais pas, citons Laravel par exemple, qui est assez populaire en ce moment en matière de failles. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous recevez un rapport qui affecte un client, mais en fait, la faille se trouve dans un composant open source utilisé par le client et n'a pas été remontée au projet open source. Quelle est la politique?
Alors effectivement, c'est un cas qui peut arriver, même si c'est pas quelque chose, je pense, qu'on rencontre le plus, mais qui peut effectivement arriver. Dans ce cas, on va faire la reproduction, l'analyse, et on va indiquer effectivement au client que le périmètre qui a été impacté est visiblement en raison d'un outil tiers, où il y a peut-être une CVE, ou en tout cas une vulnérabilité qui... ou potentiellement n'est pas connu. Ensuite, ça va être au programme, et généralement c'est ce qui se passe, hein. Le programme va lui-même, au travers de son prestataire, au travers des personnes techniques qu'il a chez lui, être éventuellement en mesure d'aller contacter le programme, pardon, pas le programme, le produit source, pour qu'il fasse, qu'il mette en place les correctifs dans l'application utilisée.
Mais celui qui a trouvé la faille, il est rémunéré même si c'est dans un composant tiers? Ou sous prétexte que c'est un composant tiers en logiciel libre, ah ben non, ça compte pas.
Alors, je serais d'avis, et je dirais d'une manière générale, qu'à partir du moment où un client, ou quelqu'un en tout cas utilise une solution qu'il a intégrée chez lui, a priori, c'est quand même quelque chose qui sera, en tout cas qui va chercher à vouloir corriger, parce qu'il utilise cette solution. Si je prends l'exemple typiquement d'une vulnérabilité qui est sortie et que je pense tout le monde a déjà entendu parler avec Log4Shell, des Log4Shell, Log4j, donc il y en a eu tout un tas. Même si la vulnérabilité n'est pas directement issue d'un développement chez des personnes qui ont leur site web, leurs applications, etc., quand bien même, il va bien falloir les corriger, et ils sont quand même vulnérables, et la vulnérabilité, à la fin, est quand même exécutée sur leur serveur à eux. D'une manière générale, la recommandation serait quand même, malgré tout, d'accepter et de récompenser le chercheur qui a fait sa remontée.
Quand tu dis que la recommandation serait d'accepter, est-ce que c'est le client qui choisit à la fin?
Alors, ce qui est important de savoir, c'est que côté triage, en tout cas en ce qui nous concerne, après, les plateformes font, certaines plateformes de bug bounty font différemment. En tout cas, ce qui nous concerne, c'est les triageurs ne font que des suggestions. C'est-à-dire que nous, on est là pour recommander en fonction des impacts, des analyses qu'on a déterminées. On va faire une recommandation d'impact de sécurité avec le scoring CVSS. Mais c'est pas nous qui décidons de l'impact final. Le client est à même de son côté d'avoir des informations de son côté pour se dire j'ai un équipement de sécurité qui me permet de réduire ou d'atténuer la vulnérabilité qui a été remontée. J'ai un système de double authentification qui me permet d'empêcher le scénario que me décrit l'attaquant. Donc voilà, après c'est de la discussion avec le client et j'ai envie d'un peu tourner la question dans l'autre sens. Est-ce que finalement c'est dans l'intérêt d'un client derrière de ne pas récompenser une vulnérabilité dans ce sens-là parce que finalement...
Bah, non, parce que sinon plus personne lui fera confiance.
Exactement. Plus personne ne lui fera confiance. Et puis ça va être au détriment finalement de la vie de son programme et du fonctionnement de son programme de bug bounty.
Est-ce que vous payez, ou en tout cas est-ce que vous validez les failles seulement s'il existe un correctif? Parce qu'on là, on parle d'open source. J'ai plusieurs cas en tête où, en gros, un problème de sécurité est discuté dans le projet et à la fin, le mainteneur du projet dit « Non, mais ça, c'est pas un problème, il n'y aura pas de correction, c'est aux utilisateurs de comprendre ce qu'ils font, mais c'est pas une faille. » Et en fait, dans 98% des cas exploitables, l'API est mal faite et tout le monde a copié-collé un morceau de code Stack Overflow vulnérable et donc tout le monde est vulnérable, mais le mainteneur open source ne veut pas corriger et donc il n'existe pas de CVE, pas de fixe, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
C'est une bonne question. Je comprends le sujet. Alors, c'est vrai qu'il faut déterminer après ce qui peut être aussi un problème de configuration et un problème vraiment un problème dans le code qui génère une vulnérabilité. On peut avoir affaire à des problèmes de configuration où l'éditeur, on va dire, de la solution, une solution SaaS ou en tout cas une solution que le client utilise, fait des recommandations, on va dire, en termes de configuration, et ces configurations, par défaut, sont potentiellement amène en tout cas à des fuites d'informations ou en tout cas des comportements un peu inattendus qu'un attaquant pourrait être en mesure d'exploiter. Si on est face à une vulnérabilité pure dans le code, là c'est sans doute un peu différent. Après, effectivement, dans les projets open source, ça peut être le cas. Si l'éditeur estime que il n'y a pas d'impact de sécurité suffisant démontré, et que dans ce cas il n'y aura pas de correctifs qui seront déployés, on peut comprendre dans ce cas-là que le programme de bug bounty décide de ne pas verser de récompense aux chercheurs dans le cas où il n'y a pas de correctifs.
Et comment vous faites pour reproduire les bugs? Parce que, comme je le disais en introduction, des fois c'est simple, mais des fois ça demande des conditions très particulières. Des fois, il y a des plages d'adresse IP qui peuvent être, avoir des privilèges spéciaux, par exemple, ou alors il faut avoir créé son compte avant une certaine date pour être dans un mécanisme spécial. Ou, voilà, c'est pas toujours évident.
Oui, mais ça, c'est, pareil, si... c'est pas des choses qui sont gérées avec le client en amont.
Alors, il y a un mix d'un peu tout ça, effectivement. Donc, il y a des choses qui sont gérées avec le client et qui sont vues en amont avec avant le lancement, où on sait que le client va être en mesure de nous donner des comptes avec avec des identifiants particuliers, des droits particuliers. Après, il peut y avoir des situations un peu plus complexes, notamment sur des environnements, typiquement des environnements bancaires, où on est en environnement de production, et dans ce cas, le client n'est pas à même de nous fournir un compte. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Et puis, effectivement, il y a des cas que Nicolas, par exemple, citait avec Pokémon Go. Et bien là, il va falloir aller prendre le téléphone physique, et puis on va pas avoir d'autre choix que d'aller se balader dans la rue avec son Pokémon Go pour faire monter son Pikachu à un certain niveau, parce que le prérequis c'est d'avoir un certain niveau pour faire la reproduction d'une vulnérabilité. On va avoir des environnements aussi de type Windows, on va avoir du Linux, enfin on a vraiment une variété, on va dire, d'environnements qui effectivement amènent un peu de complexité. Et après, voilà, c'est en fonction de ce que est en capacité de nous fournir le client en amont du lancement du programme de Bug Bounty, et aussi d'internaliser des choses, des environnements qu'on peut mettre en place chez nous pour essayer de reproduire dans les mêmes conditions que ce que le chercheur, lui, a été en capacité de faire.
Je suis désolé, je reviens sur ma question précédente. Tu as très bien répondu à celle-là, mais j'ai un exemple qui, là, me vient en tête, c'est les attaques de désynchronisation HTTP que Portswigger présente à Black Hat cet été, et qui sont intrinsèquement en fait des failles du protocole HTTP dans sa spec. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, sachant que les sites sont vulnérables? Tu peux effectivement faire fuiter des informations, et en même temps c'est un problème de spec. Donc
tu peux expliquer le principe de cette vulnérabilité, Nico?
Pas immédiatement, puisque la présentation n'a pas encore eu lieu au moment où nous
enregistrons. C'est sous embargo.
Mais voilà, donc à Black Hat US, des problèmes de désynchronisation, c'est en gros d'arriver à... Comment je vais expliquer ça facilement et à l'oral?
Mais non, mais c'est comme l'unicité dans un programme. Si tu arrives à faire une interruption au bon moment, tu arrives à tout niquer. Bon, c'est un peu pareil.
Oui, pardon, pour répondre à la question. Donc effectivement, si après c'est une vulnérabilité, on a l'exemple aussi de cache poisoning. Donc typiquement, ça c'est la vulnérabilité qui permet dans le cache du serveur d'aller typiquement, si j'envoie une requête mal formée avec un header spécifique et que le serveur n'est pas en capacité de traiter cette requête, il va me renvoyer une erreur par exemple 502. S'il y a une mauvaise configuration du cache, potentiellement cette erreur 502, je vais être en capacité finalement de la projeter, de la rendre vers tous les utilisateurs du site qui se rendront sur le site en question. Et donc ça, effectivement, c'est des problèmes, on va dire, en termes d'implémentation, de configuration, etc. C'est pas exempt de correctifs, il en existe. Et nous, quand on reproduit, hein, quand on fait la reproduction des vulnérabilités, on la reproduit directement sur le périmètre du client et sur le périmètre qui a été testé et qui, dans le cadre du programme de bug bounty chez le client, est testé par le chercheur. Donc nous, on est dans les mêmes conditions. Ensuite, effectivement, hein, des fois, le débat, c'est pas sur la vulnérabilité, elle existe bien, ça, il n'y a pas de débat. Le sujet, ça va être plus, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place comme correctif pour éviter que ça se reproduise. On peut se rendre compte sur des périmètres très très larges, finalement, que peut-être qu'un programme de bug bounty va décider pendant un certain temps éventuellement de retirer cette vulnérabilité des vulnérabilités qualifiantes parce qu'il en a conscience, parce qu'il a conscience qu'il est vulnérable à du cache poisoning, du request smuggling et autres attaques de ce type. En attendant de trouver un correctif adapté et d'avoir déployé ça sur l'ensemble de ces périmètres, de ces serveurs, dans ce cas, il le retire du programme et comme ça, ça évitera que lorsqu'un chercheur va remonter cette vulnérabilité, que son rapport soit fermé en duplicate, et qu'on lui dise « bah oui, on était au courant, etc. » parce que ça crée un peu de déception aussi chez le chercheur, ce qui n'est pas l'objectif. Donc voilà, en tout cas, c'est un sujet sur les sujets d'implémentation, effectivement.
Et est-ce que les chercheurs ont accès à l'état des vulnérabilités qui ont déjà été découvertes ?
Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre des plateformes et ça va aussi dépendre notamment un peu des projets. Potentiellement, s'il y a un projet open source, alors je pense que sur les projets open source, finalement, on va être au courant de la vulnérabilité qui avait été découverte à un instant T, puisqu'il y a une déclaration de CVE et puis on va pouvoir... déterminer où est-ce qu'était la vulnérabilité dans le code, etc. Mais en tout cas, tant que la vulnérabilité n'a pas été corrigée dans les projets open source, non. Et puis d'une manière générale, les chercheurs n'ont pas accès en fait à ces informations-là de leur côté.
Donc si je comprends bien, les gens dont c'est le métier reçoivent toute la journée en gros des failles dans les logiciels et des techniques qui permettent de pirater tous les sites de e-commerce français. Comment vous assurez la sécurité de ça ? Est-ce qu'il y a des règles de l'ANSI ? Est-ce qu'il y a un SecNum Cloud pour les programmes de bug bounty par exemple qui s'assure que les gens travaillent en salle blanche, qui ne peuvent pas repartir, réutiliser eux-mêmes les informations qui leur sont transmises toute la journée, parce que ça semble assez tentant quand même de réutiliser tous ces bugs et tous ces entry points.
Historiquement, je sais qu'il y a une plateforme qui avait été concernée effectivement par ce sujet-là, où des triagers des security analysts avaient réutilisé des vulnérabilités à des fins personnelles. Après, nous, on met en place tout un tas de choses, et je pense que d'une manière générale, les plateformes mettent en place tout un tas de processus et d'environnements dédiés, isolés, et des choses qui peuvent être mises en place pour éviter. Alors ça, c'est, on va dire, l'aspect sur l'aspect technique. Après, sur l'aspect aussi, on va dire, humain, il y a évidemment la relation de confiance qui est créée avec les équipes, qui est très importante. Et donc voilà, c'est un assemblage, on va dire, d'un aspect technique et humain qui permet d'éviter ce genre de choses d'arriver.
C'est vrai qu'il n'y a pas encore de qualification, c'est-à-dire que autant pour les auditeurs, il y a le PASI, pour la détection, il y a P10, et là, ça t'impose plein de contrôles sur les gens que tu recrutes, la sécurité de la plateforme, et j'en passe, enfin, tous ceux qui font de l'investigation, de la réponse à incident, il y a des qualifications. C'est vrai que, vu le nombre d'acteurs de bug bounty, ça aurait un sens limité d'avoir une qualification pour deux acteurs, mais on imagine que vous appliquez les mêmes bonnes pratiques.
Tout à fait. Je confirme qu'il y a des bonnes pratiques qui sont appliquées. Il y a tout un tas de certifications qui sont passées. Encore une fois, tout à l'heure, j'expliquais sur les environnements de reproduction, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place pour que ce soit isolé et que chaque reproduction soit faite dans un environnement contrôlé et où on contrôle ce qui s'y passe.
C'est quand même un travail énorme qui prend beaucoup de temps.
Tout à fait. Ça prend beaucoup de temps. Il y a une diversité aussi de profils qui permet à certains d'avoir des appétences pour aller reproduire des vulnérabilités sur de l'environnement mobile, d'autres sur l'environnement Windows, d'autres sur du binaire, du web, etc. Ça occupe bien.
Mais alors, je veux bien croire que ça prenne de plus en plus de temps, parce que les bugs sont aussi de plus en plus complexes. Mais aussi, est-ce que vous n'avez pas, une surcharge de travail liée à la génération de bugs et de rapports par ChatGPT, pour être très précis.
Évidemment, on est concerné, comme toutes les autres plateformes, par ce type de problème. Après, alors je ne sais pas si certains l'ont vu, mais il y a entre autres le maintainer et le créateur de Curl, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait plusieurs publications.
Daniel Steinberg.
Exactement, qui a fait plusieurs publications à ce sujet, où c'est effectivement un problème aujourd'hui, parce que les IA, elles sont capables de générer des rapports qui sont, à première vue, à première lecture, on pourrait penser qu'ils sont vrais. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit que finalement, c'est une coquille vide. Et on est impacté, évidemment. Après, il y a des choses qui sont mises en place pour limiter ça. C'est a priori pas dans l'intérêt d'un chercheur de le faire. S'il le fait, il le fera qu'une seule fois. Le triage va s'en rendre compte. Et puis, y a des choses qui peuvent être mises en place aussi. Son rapport va être fermé typiquement en spam. S'il est fermé en spam, il va perdre des points. S'il perd des points, il va pas être dans le leaderboard. Et s'il n'est pas dans le leaderboard, a priori, il sera pas invité sur des programmes de bug bounty. Donc c'est un enchaînement. Et généralement, il y a quelqu'un qui va tester, il va le faire une fois, ça va pas marcher, il peut réessayer une deuxième fois, mais ça marchera pas mieux, et finalement, au bout d'un moment, il va abandonner, et c'est un peu un cercle vicieux. Et ensuite, il y a un point, alors à ce sujet-là, nous, je sais, quelque chose qu'on a mis en place, entre autres avec des programmes open source, c'est une notion un peu de templating, où on demande finalement à des chercheurs, lorsqu'ils soumettent un rapport, de le faire d'une manière très cadrée, où on leur indique, dans le rapport qui est soumis, on a des attendus, on a des choses qu'on veut voir mentionnées.
Ah oui, mais ChatGPT, il n'a aucun problème à respecter un modèle de rapport.
Tout à fait, il n'a aucun problème à respecter un modèle de rapport, ça je suis bien d'accord. Par contre, ça va quand même pouvoir aider à structurer finalement la lecture du rapport et aller rapidement à l'essentiel.
Oui, pour à le lire rapidement pour toi. Mais finalement, est-ce que toi, t'as pas intérêt à faire relire et contrôler tes rapports par un LLM ?
C'est pas quelque chose aujourd'hui qu'on a envie de faire. Je pense que effectivement, ça peut être très tentant. Mais aujourd'hui, c'est le côté humain qui détermine et qui aide beaucoup dans le
et qui fait la valeur.
Et qui fait la valeur, tout à fait, dans le triage. Donc, voilà. Et encore une fois, effectivement, l'IA est capable de rédiger des très belles choses, etc. Mais on s'aperçoit quand même rapidement que c'est une coquille vide. Et c'est cette structure de templating qui nous permet quand même relativement de gagner pas mal de temps.
Je vais changer complètement de sujet, mais est-ce que les clients sont matures aujourd'hui ? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien précisé au début, c'est qu'il y a des programmes de bug bounty privés ou publics. J'ai une petite expérience avec les programmes publics. Les programmes publics, c'est en gros, tu as une adresse email ou un point, sur ton site web, tu as un point de contact qui est mentionné, et en fait, tu reçois des mails de n'importe qui, et il n'y a pas de ladder board, il n'y a pas d'invitation, il n'y a rien. Et effectivement, là, c'est là où tu as un volume important, on va dire. Pas toujours très qualifié. Et pour en revenir aux clients, donc dans les programmes de bug bounty public, des fois, ils peuvent recevoir des dingueries, comme on dit. Est-ce que, de leur côté, si tu leur présentes une attaque de désynchronisation HTTP qui nécessite d'exploiter des comportements cryptographiques dans des middleware, tu leur poses ça sur leur bureau, ils savent exactement quoi en faire, ils passent ça alors à un G-System et le mec va déployer dans sa peine au DevSecOps pour corriger.
Là,
ou est-ce que, au contraire,
tout de suite à un extrême. Il y a toute une échelle entre les deux.
c'est effectivement une bonne remarque, et c'est un peu aussi le triage, faut le voir aussi un peu pour rester dans le domaine, un peu comme un proxy où on intervient entre un chercheur et un client. Parfois on va avoir des chercheurs qui sont très très bons techniquement, mais au niveau d'un point de vue rédactionnel vont avoir un peu de mal en fait finalement, et ça va desservir leurs travaux et leurs recherches. D'un autre côté, on va avoir des clients qui connaissent bien la partie développement web, il y a pas de souci, mais là, d'un point de vue vulnérabilité et compréhension des impacts des vulnérabilités, c'est plus compliqué. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de faire un un livrable qui est compréhensible, où en relisant les étapes d'écrite, de reproduction, en relisant notre analyse, ça doit aider normalement à mieux comprendre, en tout cas à bien comprendre la vulnérabilité. Après, c'est un échange. Des fois, effectivement, sur les vulnérabilités un peu nouvelles, qui sont un peu méconnues, on va avoir un client qui va revenir vers nous et qui va nous demander « Ok, je suis pas bien sûr de comprendre, c'est quoi l'impact, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ?» Et donc là, ben voilà, il va falloir user de pédagogie et essayer de mieux expliquer, d'expliquer ou en tout cas un peu différemment pour leur faire comprendre « Ok, nous, de notre expérience, on valide la vulnérabilité, elle existe. De notre expérience, on considère que l'impact, c'est ça. Et en ce qui concerne vos périmètres et vos serveurs ou vos clients, voilà l'impact. » Et donc de cette façon-là, en expliquant un peu différemment et en essayant un peu aussi d'amener... et c'est très important dans le triage, dans la façon dont on le fait, c'est d'amener du contexte par rapport au client et par rapport à son contexte à lui. Et dans ce cas, voilà, ça permet pour lui de mieux comprendre. Après, sur chaque rapport de vulnérabilité, dans tous les cas, les clients ont accès au rapport. C'est pas parce que le rapport est dans les mains du triage qu'ils ne peuvent pas interagir. Ils peuvent tout à fait interagir avec le chercheur. S'ils estiment qu'ils ont besoin de poser des questions au chercheur, ils ont tout à fait le droit et la possibilité de le faire. Voilà, c'est une collaboration et ça doit marcher vraiment comme ça.
Expliquer un bug, je vais pas dire que c'est facile, mais bon, tu vois, je pourrais t'expliquer comment marche un stack-based buffer overflow, par exemple. Ça veut pas dire que je peux t'expliquer comment va être implémenté des stacks canaries dans un compilateur. Et là, c'est pareil, tu peux très bien expliquer un bug de pollution de cache. Par contre, le client, après, doit aller voir son CDN pour lui expliquer comment il faut changer les entêtes HTTP, ce genre de choses. Et là, il y a une partie de, j'allais dire de hand-holding, mais pour Hervé, je vais dire d'assistance utilisateur ou d'interaction à trois, on va dire, entre l'entreprise, potentiellement la personne qui a développé le logiciel, qui est un sous-traitant, et puis l'hébergeur, qui est encore une troisième personne. Et tu vois, ils peuvent se renvoyer la balle longtemps pour comprendre qui doit ajouter l'entête HTTP, quoi.
Tout à fait. Et ça peut, des fois, et c'est un peu aussi ce qu'on a du mal à faire comprendre à des chercheurs, parce que bah, eux n'ont pas cette visibilité-là, finalement. Mais une fois que le rapport arrive sur la plateforme, donc il passe entre nos mains, nous, on est arrivé à valider, à déterminer que c'était valide, super. Le client reçoit cette information. Et effectivement, là, ça peut prendre un certain temps parce que, comme tu le disais, s'il doit aller voir son prestataire qui lui-même passe derrière avec un hébergeur tiers, etc., ça peut prendre un certain temps. Et chacun peut effectivement se renvoyer un peu la balle en disant non, c'est pas chez moi, c'est dans l'autre équipe, etc. C'est pas ce qu'on observe la majorité du temps, fort heureusement, mais ça peut faire partie des éléments un peu bloquants et qui peuvent un peu faire traîner, on va dire, le traitement d'un rapport, effectivement. Après, encore une fois, c'est rarement dans l'intérêt d'un programme de bug bounty de se renvoyer la balle et de faire traîner, sachant que derrière, bah, y a des enjeux qui sont réels et qui sont bah, je dois protéger mes clients, je dois protéger mon serveur, je dois empêcher cette vulnérabilité, je dois empêcher ce comportement. Donc il y a bien au bout d'un moment quelqu'un qui va devoir prendre une décision et confirmer que bah oui, ils vont corriger et ce qui a été remonté par le chercheur est bien bel et bien valide.
On approche de la fin de l'émission, alors je vais parler de duplicate, puisque c'est ce qui fait rager tout le monde. Au bout de combien de temps on considère qu'une faille n'est plus un duplicate ? C'est-à-dire que si j'ai un problème structurel dans un logiciel et que le client va mettre un an à corriger, est-ce que pendant un an, tous les rapports sont classés en duplicate ou il y a un moment où les hunters sont légitimement en droit de rager ?
Alors, le droit de rager est un droit qui existe et au-delà de faire du triage, pardon, je fais aussi un peu de bug bounty sur mes heures libres, mon temps libre, et effectivement, je suis impacté aussi par cette notion de duplicate. Sur la durée, effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver pendant un certain temps. La vulnérabilité, elle n'est pas corrigée, donc les rapports sont fermés de manière systématique en doublon. Après, sur le long terme, j'en reviens un peu sur la même chose, hein, mais c'est pas dans l'intérêt d'un programme de bug bounty de laisser une vulnérabilité, on va dire, importante sur son système et de ne pas la corriger, parce que, bah, au bout d'un moment, ça va, il va y avoir une perte d'attractivité pour les chercheurs. Ensuite, les triageurs sont pas les seuls à discuter avec les programmes de bug bounty. Il y a aussi les CSM, ceux qui sont en charge très régulièrement d'avoir des points avec les programmes pour faire évoluer le programme de bug bounty, pour le rendre dynamique, etc. Si au bout d'un moment on est au 35e rapport fermé en duplicate, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il va falloir, à un moment donné, régler ce problème. Soit en déployant un correctif, en prenant cette décision du côté du programme de dire « bon, bah oui, ok, je vais corriger », soit, je l'avais mentionné tout à l'heure, c'est dans les règles du programme, éventuellement faire une mise à jour du programme et d'indiquer ce type de vulnérabilité pour l'instant est exclu et ça évite de générer cette frustration aussi côté chercheur qui peut arriver. Alors, si c'est un programme d'open source, normalement, c'est l'objectif, a priori, puisqu'elles font l'objet d'une CVE, donc elles sont publiées, documentées, etc. Si c'est sur un programme privé, avec une solution privée, etc., rien n'est publié. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup.
Non, mais c'est normal, ça n'a pas à être publié. C'est comme si on publiait les rapports de tests d'intrusion.
Il y a plein de gens qui les publient dans le cadre de certification, etc.
Donc, ils les communiquent à des gens qui ont l'autorité pour les demander. C'est pas public. Alors après, quand la CGT effectivement obtient un rapport d'audit, elle a le pouvoir effectivement de le rendre public. Enfin, ça, c'est un cas très rare et exceptionnel.
Ok, Adrien, est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas parlé et que tu souhaiterais évoquer ?
Je pense qu'une chose qui est importante, c'est parce que j'en discute de temps en temps au travers de différentes communautés ou notamment aussi sur des événements type le hack qui a eu lieu fin juin, avec les chercheurs, c'est pas dans l'intérêt en fait des triagers, des security analysts, c'est pas dans leur intérêt finalement de diminuer une vulnérabilité, de rendre son impact plus bas. Il y a aucun intérêt à ça. L'intérêt, lui, juste du security analyst, c'est de reproduire la vulnérabilité et donner son analyse, son impact par rapport au contexte du client, par rapport à ce qui a été traité et vu avant, et par rapport, on va dire, aux pratiques qui sont faites en interne pour les security analysts. C'est souvent quelque chose, en tout cas régulièrement quelque chose qu'on peut entendre ou comme reproche, où on s'imagine que les security analysts sont là pour pénaliser les chercheurs. C'est vraiment pas du tout dans cette optique-là. On pourrait en parler, je pense, pendant des heures. La métrique CVSS, qui est sujet à beaucoup de débats. Donc là, aujourd'hui, on est à la 3.1. Enfin, il y a la 4, la version 4 qui a été publiée récemment et qui commence à être un peu utilisée. Elle fait beaucoup de débats parce que on ne sait plus vraiment, pour certaines métriques, si on doit la positionner en bas, élevé ou pas. Donc ça fait partie des longs sujets qui sont connus des triagers et que chacun fait de son mieux. Et que derrière, on a tendance à vite oublier, mais que finalement, il y a des humains derrière les écrans, et que ce serait bien d'y penser parfois.
Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur cette face cachée du bug bounty.
Merci Adrien, merci Hervé d'avoir trouvé ce titre magnifique, et merci Nicolas. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.